Comme que William Sadier Lennox que a pu être ce que nous apprenons du récit de l'histoire de la société de Caïn, il y a quelque chose d'assez parallèle, d'assez analogue. C'est-à-dire, de quel point de vue Israël, qui est une nation, n'est pas une nation de même nature que les autres nations. Ça, nous le trouvons en germe, à la racine, dans cette équation, la ligne de chaîne d'un côté, qui est nommée dans le texte les Bnei Elohim, les fils des dieux, pour traduire en français, c'est un sujet pour lui-même, mais je ne vais pas l'aborder maintenant. Et d'autre part, la ligne de Caïn, qui s'appelle les Bnei Adam, dans ce premier récit, des 10 générations de Adam jusqu'au début. Alors, si je me souviens bien, d'après ce que vous m'avez rappelé tout à l'heure, la dernière fois, nous avons étudié le sursis qui est au niveau de l'identité de Enoch et l'échec corollaire. Il y a d'autres sursis qui suivent. Je vais prendre le dernier. C'est, on s'aperçoit que l'avant-dernier sursis, c'est l'identité de Noir, qui se trouve enfin au même niveau, disons, à un niveau suffisamment compatible avec l'état de la société de Caïn pour la prendre en charge. Il n'est pas trop élevé comme les autres générations depuis Shed jusqu'à Noir. Et c'était la cause de l'échec. Vous rappelez ça, Enoch échoue, Hanor, les règnes de Shed échouent aussi. Il faut attendre une modification de l'identité de Shed, de l'identité sacerdotale, messianiste, dans le sens de se mettre à peu près au même niveau que la société de Caïn, l'état où elle est arrivée, de telle sorte qu'une prise en relais soit possible, qu'une prise en charge soit possible. Je vous rappelle simplement ce principe, vous me direz si nous l'avons étudié, les tonados dans la lignée de Caïn vont du moins au plus. C'est un objectif d'arriver à retrouver l'idéal humain tel qu'il est dans le projet du Créateur. Alors que les tonados dans la lignée de Shet vont dans le sens inverse. Shet est créé d'emblée, enfin engendré d'emblée au plus haut niveau de l'identité humaine, les Tselem Elohim, je ne reviens pas sur les traductions que nous avons eues à ce moment-là. Et puis, il faut que cette identité se modifie dans le sens d'un tiltum, d'une diminution d'envergure, pour qu'il y ait prise en charge possible de l'humanité de Caïn. Ils sont au même niveau, finalement, Noir et ses contemporains, mais dans un sens radicalement inverse. L'identité dans la société de Caïn va dans la perspective d'une chute, de dégradation, alors que Noir doit les prendre en charge pour assurer leur rédemption, on va dire en français, leur transfiguration, on va dire leur progrès moral. Je vous donnerai une analogie de cette idée. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir se mettre au niveau de celui qu'on doit prendre en charge pour résoudre le problème qui est en question ici. Ce qu'on a appris dans les échecs des 10 générations à travers Shet jusqu'à Noir, c'est que le berger qui est suscité, qu'il soit Enoch, qu'il soit Hanor, ou les autres qu'on vous cite, sont trop élevés. Alors, c'est un enseignement de la Torah qui est à propos de Moïse. Au moment où il y a eu la parole de Moïse, vous avez dans le livre de Shemot, si vous avez le livre de Shemot ici, je vous donne la référence. Au moment de la faute du Vaudor, lorsque Moïse a dû briser les premières tables de la loi, alors la manière dont Dieu introduit l'information qui lui donne que pendant que Moïse était au haut de la montagne pour recevoir la Torah, en bas, le peuple se dégrade. Vous avez le texte dans les versets. Ça se trouve dans la paracha de Kishisa. Je vais dire tout de suite quel est le verset, vous allez le noter. Rachid cite un midrash, vous le trouvez en commentaire de Rachid, il dit « T'as mais l'air descend de ta grandeur. » Alors d'abord je vous explique l'exégèse de ce midrash, le chat. Nous avons un mot de trop. Moïse est sur le haut de la montagne. Donc l'air va, ça veut dire descend. Alors red est en plus. C'est clair? C'est pourquoi le Midrash doit expliquer le chidouche qu'il y a dans le Lachon Yétou, qu'il y a dans le mot Red. Et qu'ici, ça ne signifie pas, évidemment, descendre, puisque déjà, va, ça signifie descendre. Ça signifie descendre de ta grandeur. Vous voyez l'idée? Et il y a là déjà la montre du fait que, à un certain moment, c'est Josué qui devra prendre le relais de Moïse comme dirigeant du peuple. L'idée qui apparaît là est très importante. C'est que, à la longue, Moïse est trop grand pour l'état où se trouve ce peuple sorti d'Égypte. Je n'ai pas dit Israël, parce que cette faute du veau d'or, comme nous l'apprendrons, ne vient pas d'Israël lui-même, les descendants des tribus, des Hébreux, mais tout le peuple qui s'était adjoint à lui à la sortie d'Égypte, le Erevra, ils attendraient ça d'autre part. Et donc, Moïse est trop grand pour pouvoir être efficace dans cette prise en charge du peuple à l'état où il se trouve. Il faut qu'il descende de sa grandeur, dit le Midrash. Vous comprenez l'idée? Et nous verrons qu'avec le temps, Moïse sera décidément trop haut pour ce peuple, et c'est Josué qui va prendre le relais. Alors on a, vous voyez, la technique. Et nous avons ici la même idée dans un autre exemple. C'est pourquoi le Midrash dira: la face de Moïse resplendit comme le soleil, et la face de Josué comme la lune, qui reçoit la lumière du soleil, mais qui l'atténue, qui la modifie. Et ce Midrash est important pour aussi d'autres sujets, mais retenez. Et nous verrons effectivement que pendant beaucoup de péripéties de révolte de ce peuple, Moïse a la force de prier pour le peuple, mais à un certain moment, il n'a plus la force de prier pour ce peuple. Alors Dieu lui dit: tu ne peux plus être le dirigeant de ce peuple, et c'est Josué qui prendra le relais. Encore une fois, pas parce que Moïse est disqualifié, mais parce que Moïse est trop grand pour pouvoir se pencher sur le niveau où se trouve le peuple à ce moment-là. Et alors Moïse prend congé de cette génération de la sortie d'Égypte. Encore une fois, la responsabilité, ce n'est pas tellement les descendants des tribus, Israël, mais le peuple que le texte nomme Ha'am, le peuple, qui s'était adjoint au Bnei Israël, pour en faire le Ha'am Bnei Israël, vous verrez toutes ces étapes par la suite, et qui est le Erevra, dont on vous parlera d'ailleurs de notre peuple. Vous voyez donc que nous avons pratiquement le même principe. C'est-à-dire celui qui doit prendre en charge une génération donnée de l'humanité pour lui permettre une ascension morale doit être capable, doit avoir la force de se mettre au même niveau qu'elle, mais de se garder du vertige, du sens de chute. Vous avez compris donc. Donc c'était pas une fonction simple, cette fonction d'aligner le chef. On peut être pris de ce vertige. Il faut descendre au niveau où sont les gens de Caïn qu'il faut reprendre en charge, mais ne pas être pris par ce vertige de descendre trop bas. Alors, pour se garder de ce vertige de descendre trop bas, nous avons ce phénomène de l'échec des grands bergers de cette génération, qu'ils renoncent à se relier à l'humanité de leur temps et préfèrent un quant à soi de la cèse du juste pour ne pas se dégrader. Vous vous rappelez de cela? On avait appris à propos de Hanouk en particulier. C'est clair, c'est un thème important que nous devons à exploiter assez souvent. Je vous donnerai peut-être un principe qui vous permettra d'y réfléchir dans un sens un peu contemporain de l'histoire juive. C'est qu'on ne trouve pas chez les goyims une tendance à l'assimilation. On trouve chez les juifs une tendance à l'assimilation. C'est-à-dire, tout se passe comme si l'identité d'Israël est allée très vite dans son projet moral. Abraham, Isaac, Jacob. On attend le quatrième niveau, c'est le Mashiach. Ça aurait pu être la quatrième génération. Il y avait un problème de savoir si ça passe par Yosef ou Yehuda. Mais c'est à cette génération-là que le Mashiach pouvait apparaître. Alors, les raisons pour lesquelles il y a une différence avec A, pas avec E. Vous voyez ce que je veux dire, bien, l'avènement messianique sera différé. Pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Il y en a une qui apparaît là. C'est parce que finalement, le Mashiach doit être le Mashiach unique pour Israël et l'humanité tout entière. Il doit sauver l'humanité. Il sort d'Israël pour sauver, enlever sort, parce que ça a un autre sens en français. Il procède d'Israël, si vous voulez, pour sauver toute l'humanité. Ils sont de nouveau dans un monothéisme cohérent, radical. Ce que Dieu cherche à sauver, c'est son humanité, par Israël. Et donc, il faut attendre les autres. Pourquoi ça dure ad matai? C'est une question qui revient souvent dans l'ouvrage. Jusqu'à quand? Eh bien, ça dépend pas tellement de nous, peut-être. Ça dépend du fait qu'il faut attendre que tout le monde soit sauvable. Et alors, nous avons tout ce temps immense, depuis Yaakov Avinu, jusqu'au quatrième patriarche, qui sera le Mashiach, pour pouvoir arriver à trouver cette atama, cette homogénéité de niveau de prise en charge. Alors, vous voyez, l'identité d'Israël fait une chute pour arriver à se mettre au niveau des Goyim. Et alors, ce vertige de la chute déborde le stade où il faut se situer, cet équilibre est très difficile, et c'est là que commence l'assimilation. C'est-à-dire que c'est une tendance propre à Israël, pas au Goyim. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire, ce que je dis là? Et je vous donnerai un exemple. Quand on finit de lire le Chumash, c'est l'identité d'Israël, elle est très haute. Puis on commence les livres suivants. Israël va rentrer dans l'histoire et d'Egoïm, au milieu d'Egoïm, pour prendre en charge cette humanité d'Egoïm, hors la Goïm, le Khenar. Non, une chute radicale de niveau entre l'identité d'Israël jusqu'à la fin du livre de Dvarim et l'identité d'Israël à partir du livre de Josué. Vous avez un choc. Je ne sais pas si vous avez ressenti une chute de niveau radicale. À quoi ça ressemble? Eh bien, ça ressemble au fait qu'au Sinaï, tout ce peuple a été hissé au niveau le plus haut de la révélation. Et puis ensuite, il faut redescendre au bas de la montagne et remonter la pente pour arriver à l'objectif. C'est-à-dire, on sait où on va. On nous a hissé à cet objectif d'un coup, Matana. La Torah est d'abord donnée comme cadeau, Matan Torah. Et puis après, on redescend. Et puis, il faut remériter ce qu'on avait reçu en cadeau dans une histoire qui remontera jusqu'en haut. Est-ce que c'est clair? Alors cette chute, pour se mettre au niveau du point de départ, implique un vertige qu'on peut descendre trop bas. C'est à mon sens ce qui peut expliquer la tendance à l'assimilation qu'on a chez les Juifs. Et pourquoi chez les Juifs comme descendants des Hébreux, mais c'est un problème qui atteint déjà l'identité hébraïque, et pourquoi beaucoup de rabbins du Moussar, et surtout la Chassidoute, une certaine complaisance pour ces Juifs assimilés? C'est pas tellement de leur faute. Ils ont dégringolé trop vite. Mais ils étaient, d'une certaine manière, condamnés à descendre. Alors ils sont descendus trop tard. Mais il reste Israël. Israël, la frappe, la Israël. C'est-à-dire que c'est pas facile d'être Israël. On nous a créés très haut, et on nous a dit, l'Ered va descendre. Alors, des fois, on descend trop bas. Vous avez compris? D'ailleurs, ce mot de Red, c'est un mot qui est exploité beaucoup par le Midrash et la Kabbalah, et il enferme tout le danger de ce vertige de chute. Parce que vous avez deux mots en hébreu qui vont apparaître dans le nom de Ré. Avec le Resh, c'est le mot Aher. Avec le Dalet, c'est le mot Echad. Et c'est tellement facile de se tromper entre Resh et Dalet. Alors, et dans Ré, il y a tout le drame de ce problème. Je vois que ça doit vous rappeler ce que vous avez dit. Nous avons beaucoup d'autres exemples dans l'histoire, mais je reviens au niveau du noir. Vous voyez, cette identité de chef qui doit se diminuer d'envergure pour reprendre en charge l'humanité telle qu'elle se trouve. En réalité, la remontée ne va pouvoir commencer qu'avec Abraham. Le profil, la stature du tzaddik selon Abraham va enfin commencer cette histoire de la remontée. Mais l'identité, le profil, la stature du tzaddik selon Noir n'en est pas capable. Elle est si j'ose dire, bloquée par cette crainte de risquer de devenir rachat si on va s'occuper d'Erchaïm. Alors on préfère être Eta Elohim, Eta Lech Noir, rester avec Dieu, et se séparer des hommes, les exhorter de loin. C'est ce que pendant 120 ans, Noir fera. Et son exhortation de 120 ans n'a pas eu de résultat. Et, question corollaire, est-ce que sa génération était éducable? Je crois que nous avons vécu de notre temps des événements qui nous permettent de poser la question, que je pose depuis le début de cette histoire. Est-ce que Caïn est éducable? Et je vous dirai comment ça s'est posé à nous, le peuple juif, dans la génération précédente. Est-ce que l'Europe est éducable? L'Europe, la civilisation la plus civilisée, soi-disant. Puisque c'est en Europe qu'est apparu le nazisme. Alors, est-ce que cette manière d'être homme est éducable? À l'échelle individuelle, il y a beaucoup de réussite. Mais, encore une fois, je crois que nous en avons parlé, est-ce que cette histoire épouvantable d'un Israël prenant en charge l'humanité, soi-disant, vaut la peine d'être vécu pour un résultat aussi? Ça fait pas le poids. C'est-à-dire quelques individus qui sont sauvés, quelques personnes qui sont amenées à Ve'ahavta le'rechaka kamocha, et une histoire pareille Est-ce que Caïn est éducable? Est-ce que ça vaut la peine? Vous comprenez un peu toutes les... Je pense surtout à cet entêtement dangereux, d'une naïveté très dangereuse, des Juifs de la Gola, qui continuent à vivre ce rêve. On continue à faire semblant d'éduquer Caïn. Je crois que vous comprenez la formulation que je dis. La seule justification noble que la diaspora se donne, comme nous sommes contemporains du changement de direction de l'histoire, alors on est contemporain, il y a une perplexité partout, mais la seule justification noble, ça consiste à dire, mais nous avons une mission chez Caïn, nous devons l'éduquer. Et alors on ne se rend pas compte qu'on sort d'une expérience qui peut-être indique que Caïn n'est pas éducable. Quelle que soit, encore une fois, la pêche à la ligne qu'on peut faire de telle ou telle néfèche d'égoïme qu'on peut sauver vers soit l'alliance des Vénoirs, soit l'alliance d'Israël, les Matrigoles, mais c'est des individus. Et alors que ce qu'Israël a souffert dans une humanité peut-être pas éducable, tend un peu à donner des circonstances atténuantes à Noir, qui n'a pas réussi à exhorter sa génération. Vous comprenez ? Bien. Alors, s'il n'y a pas de question là-dessus, c'est là qu'on arrive finalement au sixième sursis. Bon. Quel rapport avec Noir ?
Non,
oui. Ah, c'est-à-dire, si on n'a pas réussi avec les Européens, on peut essayer avec le Zaïre.
Oui, c'est en tant qu'Israël.
Oui, ça c'est autre chose, c'est en tant qu'Israël. Je vais vous dire une chose, c'est plus relié à ta question. C'est parce qu'actuellement, c'est surtout le Zaïre. Je ne sais pas si vous entendez dire qu'il y a un hôpital à Gaza qui va être construit. Et, en tout cas, les Africains, et pas seulement les Africains, ressentent ça comme ça. Comment je peux oublier ce que je voulais dire avec ta question? Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais avant, de quoi je parlais? Ça se relie au sujet, d'ailleurs. Tom, enfin, ça me donne...
Pardon.
Qu'est-ce?
Vous posez le problème en termes de choix, finalement. C'est-à-dire que vous laissez supposer qu'Israël a le choix entre éduquer ou alors rester en haut de sa montagne. Mais est-ce que ce n'est pas un commandement de Dieu, finalement, qu'Israël doit descendre et doit éduquer?
Oui. Alors, tu as formulé ta question, je vais essayer d'y répondre, pas exactement dans les termes dont j'ai parlé. Tu as un peu répondu à tes propres questions, mais je veux dire, est-ce que c'est nécessaire d'être en galoute pour réaliser cette mission? Est-ce que c'est nécessaire d'être otage d'égoïme jusqu'à arriver aux camps de concentration pour réaliser ce qu'on avait? Est-ce qu'on ne peut pas le faire de Jérusalem, qui nous tient etc. Et c'est ça que l'Afrique attend, d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de communauté juive en Afrique. On est d'Israéliens pour leur apprendre à être ingénieurs et médecins et prêtres. Ça, c'est un autre schlag. Okay. Vous comprenez, il y a une grande différence. Ah, voilà ce que je voulais dire. Pendant 2000 ans de cette galoute, eh bien, le rapport des Juifs avec l'égoïme, les nations, est passé à travers les pays d'islam ou de chrétienté. C'est-à-dire, les Juifs étaient à l'ombre de la croix ou du croissant. C'est peut-être pire. Une croix plus du sang, ça fait un peu de top. Mais, subitement, tout change. Nous n'avons plus besoin d'être des ombres de l'église ou des ombres de la mosquée pour parler aux Juifs. Avec Israël, c'est direct. On court-circuite et la mosquée et l'église. Et c'est ça la différence de situation de l'Israélien dans ce problème par rapport aux Juifs de la Galoute. Ce dont je parlais, c'est les communautés de la Galoute qui ne sont pas revenues et qui continuent. Apparemment, je dis, où est la motivation noble? C'est pas quand on les oblige à dire la vérité. Qu'est-ce que vous faites chez les Goïm? On gagne de l'argent. Ça, c'est la vérité. Okay? On gagne sa vie. Pas des Goïm, des Juifs. Okay? Compte en banque. Okay? Et alors, on envoie la Macbeth en Israël, bien sûr. Il faut bien dédouaner le syndrome de culpabilité. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des missionnaires d'Israël chez les Juifs héroïques qui s'occupaient des Juifs et des Goïm. C'est pour vous, sachez. Il n'y a pas que des parasites en Angola. Il y a aussi des vrais héros. Vous me direz, il n'y a pas que des héros, il y a aussi des héros. Mais finalement, si on essaye de motiver noblement la présence des Juifs chez les Goïm, quelle est la motivation? Ben, nous avons une tâche éducatrice de ce type. Nous devons éduquer Caïn. C'est là que j'ai posé ma question. Alors ça a été pendant 2000 ans, ce rêve de cauchemar. Okay? Subitement arrive une toute autre stratégie. Israël, les Goïm, sans avoir à passer par des imitations d'église ou de mosquées. Vous avez compris ce que vous dites? Et ça, ça frappe les goïms contemporains, surtout en Afrique et en Asie. On n'a plus besoin de se présenter comme un pseudo-chrétien ou un pseudo-musulman. Israël, c'est Israël. Et ils ont un problème encore. Ils n'arrivent pas à comprendre la relation entre un Israélien et un Juif. Mais pour le moment, deux, trois générations, ça leur paraît synonyme encore. Quoique c'est pas un problème. Pour un Juif, c'est un homme d'affaires. Alors qu'un Israélien, c'est un éducateur. Que ce soit en industrie, que ce soit en... Vous avez compris? C'est quelque chose, je pense, que nous sommes en train de vivre un changement de rythme historique. Pendant 2000 ans, encore une fois, je ne sais pas si vous connaissez un peu la littérature française des générations précédentes sur le problème juif, il y avait deux auteurs catholiques très anti-juifs, c'était Jean et Jérôme Tarot. Vous n'avez pas entendu parler de ces oies, Jean et Jérôme Tarot. Ils ont écrit un livre, À l'ombre de la croix. Ça, c'était l'histoire des juifs. Ça s'appelait À l'ombre de la croix. Et il faudrait ajouter À l'ombre de la croix et du croissant, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, ça, c'est révolu. Et il y a des communautés juives de la Gola qui veulent avoir ce même rôle en tant que juifs de diaspora concurrents d'Israël. Ils ont d'ailleurs leur bureau à Brooklyn. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux pas dire. Et ils sont concurrents d'Israël, d'ailleurs, dans ces pays-là. Je ne crois pas que ça fasse partie d'un service américain quelconque. Mais peut-être, c'est dit. J'en sais rien. Ok. Méchant avec les Américains. Alors voilà, vous avez compris quel est le problème. Okay. D'ailleurs, quand a eu lieu cette histoire du Cameroun, que je ne vous ai jamais racontée, mais vous avez dû vaguement entendre parler de ça par les gens, alors j'ai eu l'occasion de dire à Shimon Peres, tu as ta chance que ça soit tombé sur un Israélien et pas sur un Juif. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes d'origine juive. Bien, alors on revient à notre problème. Donc, on arrive à la fin de ce sixième sursis des 120 ans où Noir tente, le Midrash est très clair à ce sujet, pendant 120 ans, il a supplié dans ses exhortations son humanité ambiante de se repentir, la catastrophe va arriver, voilà l'abri, l'arche que je construis, je ne sais pas pourquoi, il ne savait pas encore, Dieu m'a demandé de le construire, mais la catastrophe va arriver. Et puis, tout le monde s'est moqué de lui, dit le Midrash, au moment où les eaux ont commencé à tomber, à gonfler, tout le monde s'est précipité en direction de l'arche, mais il n'y avait plus de place. Et alors, c'est là qu'apparaît le dernier sursis, qui est le sursis des 7 jours du deuil de Metushelah. Je vais vous donner les références et vous expliquer de quoi il s'agit. Et ensuite, on étudiera ce que la Gemara dit de ce 7e sursis, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 jours supplémentaires. Alors, vous prenez le chapitre, ça va être 6, mais je vais vérifier. C'est le chapitre 6, oui. Ou 7, attendez, oui, je vais vous donner un temps de... Voilà, c'est le chapitre 7. Vous prenez le verset 4 du chapitre 7, et ensuite... le verset 10 du chapitre 7. Et voilà. Au temps de cette humanité de Chet, il y a eu de génération en génération des grandes tzadikim dont la Torah nous donne le nom de celui qui est le principal, qui aurait pu être le phare de l'effort moral pour l'humanité contemporaine, c'est la lignée des 10 générations de Adam jusqu'à Noah à travers Chet. Un d'entre eux s'appelle Metushelah. Et qui est considéré par le Midrash comme un très grand tzaddik. Metushelah, ça se traduit en français par Mathusalem. Alors, changer de vocabulaire, Mathusalem, vous voyez tout de suite une autre image. En français, Metushelah, c'est un grand tzaddik. Et alors, ce sursis des 7 jours supplémentaires qui est donné au moment où la décision, la xéra, que le déluge arrivera, que c'est décidément irréversible, aucun sursis n'a réussi à récupérer la conscience de cette humanité, alors Dieu va accorder 7 jours supplémentaires. Voilà comment le Midrash l'explique, et il en est référent dans la Gemara immédiatement. En général, lorsqu'une catastrophe arrive, les tzadikim partent les premiers, pour deux raisons. La première est une raison générale, parce que, puisqu'ils n'ont pas été capables de, comment dire, d'épargner cette catastrophe, d'empêcher cette catastrophe, ils sont donc les premiers responsables. Les tzadikim partent d'abord. Il y a énormément d'implications de cette remarque. Dans un endroit, une ville, une famille, une communauté, des habitudes partent trop vite, il faut se méfier, il se passe quelque chose. Bon, je vais refaire la parole. Et la deuxième raison, c'est que pour l'honneur de Methuselah, Dieu le fait mourir avant que le déluge n'arrive, pour pas qu'il assiste à cette catastrophe. Cette deuxième explication concerne Methuselah en particulier. On va beaucoup parler de l'honneur dû à Methuselah dans cet épisode que explique l'homologue. Et alors, c'est 7 jours de sursis supplémentaire. Methuselah donc meurt le jour où le déluge devait commencer, mais ce sont les 7 jours de l'honneur dû au deuil de Methuselah, la Shiva de Methuselah. Voilà la première explication de ces 7 jours-là. Je vous donne d'abord la réponse. Alors prenez le verset 4 du chapitre 7. Qu'il est Yamin Od Shiva, car encore dans 7 jours, Anochi Mamtir à la Haret, je vais faire pleuvoir sur la terre, c'est Dieu qui parle, Arbaim Yom Verbaim Laila, 40 jours et 40 nuits, Machiti et Toi et Koum, et j'effacerai. Et vous voyez, il n'y a pas un mot qui signifierait détruire. L'identité humaine n'est pas détruite. La forme qu'elle avait fini par prendre sera effacée. Mais la matière de cette identité va être préservée dans l'arche. Vous voyez ce que dit le verset Mahiti. Et là, il y a aussi un principe très important. Jusqu'au bout, ce que Dieu a créé, il le protège, il le préserve dans l'éventualité que ça puisse s'arranger. Les choses ont toutes été créées dans la pureté. Le temps a fait qu'une partie de ces êtres purs sont devenus impurs. Eh bien, même les êtres devenus les plus impurs, il y a toujours cet espoir qu'un jour, ils seront purifiés. C'est une loi dont je ne trouve pas de terme en français pour la définir, parce que ces catégories d'espérance n'existent pas dans des langues comme le français. Ça veut dire que c'est une espérance au 13e degré, en dépit de tout. Puisque ça a été et puisque ça a existé, c'est que Dieu l'a créé. Si Dieu l'a créé, c'est que Vayar Kito, c'est que lui sait qu'il y a quelque chose qu'il fallait créer là. Et par conséquent, puisque ça existe, ça sera protégé jusqu'au bout et au-delà de tout, de tous les rendez-vous de fin de sursis. Est-ce que l'idée est claire? Et donc, c'est pas cette identité de l'homme qui sera annulée. Elle va être remise en jeu dans un autre niveau d'histoire. C'est peut-être ce terme qu'on pourra garder. C'est ça qui se passe avec le sauvetage de tout ce qui est mis à l'abri dans l'arche. Et vous avez remarqué que sera mis à l'abri dans l'arche des représentants de ce qui est resté pur et de ce qui est devenu impur. Et tout ce qui a existé est résumé, récapitulé dans la famille de l'arche, si j'ose dire, pour être remis en jeu dans une histoire à venir. Et donc, c'est l'identité antérieure de ces 10 générations de Caïn échouées, résumée dans l'arche, c'est cette identité-là qui est remise en jeu. Mais les formes qui étaient définitivement dégradées sont effacées. Ne seront préservées par grâce, comme nous allons le voir, que des formes de cette identité, la famille de Noir, qui pourront recommencer une histoire humaine. Mais c'est la même, du point de vue de sa matière, de son étoffe. Voilà, je ne sais pas si j'ai réussi à vous expliquer ce mot, Mahiti. Ce n'est pas Filiti, je détruirai, c'est Mahiti. J'effacerai les formes que ça a fini par prendre. Bien. Et c'est pourquoi cette destruction par le Maboul d'eau, déluge en français, ça veut dire destruction par l'eau. Mais en hébreu, Maboul, ça peut être soit par l'eau, soit par le feu. C'est Maboul Maïm, c'est le déluge. Il peut y avoir Maboul Esh. Et dans le cas de Maboul Maïm, le jugement, la sanction est donnée par la Midat HaHesed. Maïm, ça veut dire on efface les formes, mais l'étoffe de cette identité est préservée. Si c'était un déluge de feu, alors l'étoffe de l'identité serait brûlée. Et donc, ça serait par la Midat HaDin. Quand le Maboul vient par le feu, c'est la Midat HaDin. Quand il vient par le Maïm, c'est la Midat HaRachmi. Vous savez d'ailleurs, dans la Halakha, vous apprendrez, on veut purifier, c'est soit par l'eau, soit par le feu. Par exemple, le hametz, on l'efface par le feu. Mais si on n'a pas de feu, on peut aussi par l'eau. Et quand c'est par l'eau, c'est hesed. Quand c'est par le feu, vous allez me dire quelle différence entre. Ça me rappelle une histoire juive. La mort, c'est la mort, que ce soit par le feu ou par l'eau. Okay. Ce qui a quand même une différence. Un juif qui a demandé des nouvelles d'un ami, il a dit, il est mort de quoi? De quoi? D'une bronchite. Ah bon, c'est pas grave. Mais il est mort quand même. Il avait dit, la tuberculose, ça aurait été grave. Bon, donc en fin de compte, le déluge, c'est le déluge. Mais malgré tout, si c'est l'eau ou le feu, il y a une différence, en tout cas au niveau spirituel. Donc j'effacerai de coller et couille tout ce qui se dresse sur la surface de la Terre, à Chéracity que j'avais fait, mais un pénalama de la surface de la Terre. Voilà, on nous annonce 7 jours. Alors on reprend au verset 10. Voyez, les Shivatayam. Et il arriva au bout de 7 jours. Vous voyez, le texte est très sobre. Il parle des 7 jours comme si on est au courant. Qu'est-ce que c'est que 7 jours? Il arrivera à la fin des 7 jours dont il a été question, et tu sais de quoi il s'agit pour le lecteur. Okay? Vous voyez, les Shivatayam. Le Midrash va nous restituer le contenu de connaissance. Umer Vavoul, Hayou Al-Aret, et les eaux du déluge furent sur la terre. Alors, le Midrash de la Gemara, c'est dans la Maseret Sanhedrin, page 108b, va nous donner trois explications de ce qui se passe pendant les 7 jours. Et nous verrons donc ce 7e sursis en 3 dimensions d'une tentative ultime de faire, d'obtenir la repentance de cette humanité. Je vais essayer de formuler cela assez rapidement, dans des termes qui auraient une résonance sur l'état actuel de la civilisation. Alors ça va être encore schématique et rapide, mais j'espère que ça sera suffisamment clair, sinon on n'apprendra plus. Et d'abord, ce fait que j'essaie de vous décrire comme événement, on va se rendre compte qu'un tzaddik, ça a existé. Quand est-ce qu'on se rend compte? Au moment où il meurt. Et effectivement, c'est une expérience humaine assez banale, apparemment, mais très profonde. Il y a deux choses. Premièrement, on regrette le tzaddik, on s'occupe du tzaddik, surtout quand il est mort. Quand il est mort, on dit « Ah, c'était un tzaddik ». Et quand il était vivant, c'était un homme. Bon, vous comprenez ce que je dis? Je ne sais pas si je suis arrivé à la... La découverte qu'un tzaddik, ça existe, ce choc-là, on l'a quand il meurt. J'ai remarqué ça. Vous allez dans des enterrements, on le préserve. Il y a des tzadikim qui sont morts, vous avez remarqué, quand j'entendais les oraisons funèbres. Il y avait tout un... Il y a une formulation dans la tradition, l'enchaînement des rachiot. Ahav emot, et avec les deux. Avant, il y a emot. Emot et la kohanim qui se méfient. Ahav emot, que deux. C'est une première indication qu'il faut bien remarquer. Et ça nous fait comprendre le Midrash. L'influence de cette découverte, il y avait un tzaddik, et bien on l'a pendant sa shiva. Après on se dit, ah si on savait, mais on n'en a pas tenu compte. Se relier au tzaddik quand il est vivant aurait pu sauver cette humanité. Mais voilà, on ne se relie à lui que dans la découverte qu'il était tzaddik parce qu'il est mort. Vous avez compris un peu quelle est l'idée, c'est pas la peine d'approfondir plus. Et surtout, cette découverte, qu'il y a cette réalité-là dans ce monde, tzaddik. Alors s'il y a un tzaddik dans le monde, ça veut dire que le monde a un sens. Parce que ne serait-ce que pour lui, il faut que le monde ait un sens. Ce serait une absurdité trop extrême, si vous voulez, que le monde n'ait pas de sens, et il y a des tzaddikim. Des vrais tzaddikim, c'est la preuve que le monde a un sens. Alors découvrir qu'il y a un tzaddik, c'est découvrir que le monde a un sens, et alors si le monde a un sens, la tshuva est... je cherche un mot, la tshuva est souhaitable. À moins que l'humanité soit en folie absolue, en délire absolu, savoir que le monde a un sens et risquer de le perdre, eh bien, la découverte qu'un tzaddik peut mener à faire tshuva. Un choc pareil au niveau d'un tzaddik de l'envergure de Metouchi. Vous pouvez prendre des exemples dans notre histoire contemporaine. Quand quelque part dans le monde, que ce soit dans la société juive ou chez les goyim, quelqu'un connu comme tzaddik disparaît, ça secoue l'humanité. Vous avez, même dans les journaux, un ton plus noble pour parler de cela. Et vous comprenez ce que je veux dire. Et alors, pendant une semaine, on y pense. Et puis après, une semaine après, on retourne à ses affaires, et on continue à construire les bombes atomiques. Vous voyez à peu près ce que je veux dire. J'ai eu un peu cette impression plusieurs fois dans l'histoire. Mais il y en a une que je voudrais vous citer, c'est quand Jean XXIII est mort, il y a eu un phénomène, des masses médias mondiales, vous étiez peut-être jeune à l'époque, même des journaux de Chine ont fait le dithyrambe du tzaddik qu'était Jean XXIII. Les Russes, tout le monde. Et c'était unanimité dans le monde entier, un juste a disparu. Et alors, on sent cette expérience-là. Il y avait un juste. Et on ne s'est pas rendu compte, on savait, mais sans savoir. Mais c'est au moment du deuil qu'on prend cette conscience-là. Mais alors voilà, ça a servi à rien. Une semaine après, les éditeurs de journaux reparlaient des mêmes studios, etc. Voilà donc la première perche qui est tendue dans ces 7 jours. Le fait que l'humanité découvre qu'on est occupé à prendre le deuil des Metouchevar. Ça aurait pu les mener à la Tchoua. Et vous voyez, même ça, c'est inefficace. Ça existe, c'est possible. Et j'essaie de le formuler de telle sorte que vous compreniez que c'est une expérience qui nous est contemporaine. Pas une légende, les 7 jours de Metouchevar. Nous pouvons expérimenter cela. Et à des échelles très différentes. Vous savez d'ailleurs comment les peuples ont leurs héros, ou leurs saints, comme ils disent, et comment ils leur rendent un culte. Ça préserve le fait que, dans un certain coin du monde, il y a quelque chose qui a un sens. Et bien, mais si le tzaddik était le témoin que le monde a un sens, ça aurait pu mener, encore une fois, à la Tchoua, et ça n'a pas mené. Vous voyez, c'est un récit très pessimiste. Parce que on nous montre les dernières cartes, les dernières chances possibles, et elles sont inévitables. Bon, en tout cas, la première, c'est... La deuxième explication, dans la même page de la Gemara, c'est que pendant ces 7 jours, le soleil se levait de l'autre côté. Il y a tout un raisonnement du Midrash que je vais un peu schématiser. Les 7 jours, ça renvoie au 7 jours du commencement. Ça renvoie à l'ordre des choses fixées aux 7 jours du commencement. Et donc, s'il y a 7 jours dans l'histoire qu'on appelle les 7 jours, c'est parallèle à ces 7 jours du commencement où l'ordre des lois de la nature s'est installé, et c'est pour indiquer que quelque chose a changé de cette sorte de pouvoir servir, encore une fois, de perche, de planche de salut pour mener à la Tchoua. Quoi ? Eh bien, l'impersonnel de la détermination des lois fixées aux 7 jours du commencement finit par suggérer à l'humanité, et c'est cela l'idéologie païenne, qu'il n'y a pas quelqu'un qui gère le monde. Le monde fonctionne tout seul de façon impersonnelle. C'est la nature, dans le sens païen, de philosophique païen, si vous voulez, de ce terme. C'est pas quelqu'un, c'est le fonctionnement impersonnel et déterminé des lois du monde. Ça met en congé la morale. S'il n'y a pas une conscience qui nous juge, finalement la morale est en danger. Les sociétés refuseront la morale dans le sens biblique, mais elles retiendront une sorte de conduite, de civilité, de manière de vivre dans la cité. Étymologiquement, en grec, ça s'appelle la politesse, le mot de polis en grec, ça veut dire la cité, la manière de se conduire dans la cité, le civisme, si vous voulez, en latin. Mais pourquoi il y a un lien très, très étroit dans l'enseignement de la Gemara entre l'ordre de la nature et le fait que l'humanité oublie qu'elle a un créateur. Alors, c'est cette formule, let din velet dayan. Il n'y a pas de justice parce qu'il n'y a pas de juge. Et si vous comprenez ce que la formule de la Gemara veut dire. Et alors, donner une sorte d'indication, cet ordre absolu de l'impersonnel déterminé des lois de la nature n'est pas si impersonnel absolu. Nous retrouvons cette même expérience dans les 10 plaies d'Égypte qui avait pour objet de convaincre les Égyptiens qu'il y a quelqu'un qui gère le monde. Et il y a quelque chose d'analogue ici. Si l'humanité découvre finalement que le soleil peut se lever de l'autre côté, eh bien ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas un ordre impersonnel et que ça, et qu'une volonté gère le monde. Et donc, il vaut mieux bien se conduire, être des bons garçons et faire tout. Vous voyez à peu près que. Mais même ça, ça n'a pas servi. Mais je vais reprendre cette explication. En fait, il faut savoir que la pensée scientifique a un problème concernant la certitude, cette foi des savants que le déterminisme est absolu. Je vais essayer de vous l'expliquer très rapidement. Ça veut dire, en épistémologie, vous savez ce que c'est que l'épistémologie ? C'est la philosophie des méthodes des sciences. C'est une branche de la philosophie qui est très importante, la philosophie des sciences. La question se formule de la manière suivante, ça s'appelle le fondement de l'induction. L'induction, c'est la méthode de raisonnement des sciences, surtout des sciences expérimentales. À partir de l'observation des phénomènes, on induit une loi générale et on l'instaure en loi déterminée, absolue, pour tous les temps et pour tous les exemples du phénomène. Or, il y a une sorte de saut dans l'inconnu, parce qu'on a observé que les exemplaires du phénomène, tels qu'ils se sont passés jusque-là, on induit une loi qui est censée être valable pour l'avenir. Par rapport à notre... Et donc, les philosophes se posent la question comment fonder la légitimité du raisonnement inductif. C'est un problème très intéressant en épistémologie, bon, c'est pas le mieux maintenant, Mais pour vous indiquer cela, c'est que pour la conscience scientifique, croire dans le déterminisme des lois de la nature, c'est un acte de foi. Je ne sais pas si vous voyez l'importance de ce que je vous dis là. Okay. Et c'est illégitime d'induire pour l'avenir. Mais on est tellement habitué à ce que ça s'est passé comme ça, qu'il y a une conviction absolue qui vient du passé pour l'avenir. C'est-à-dire, le soleil s'est toujours levé de ce côté, il continuera demain, quelque chose. Mais voilà, comme ça se passe, sans arrêt comme ça, jusqu'à maintenant, alors il y a une conviction qui fait que tout porte à croire et on devient certain que ça continuera à se passer demain. Et si demain le soleil se lève de l'autre côté? Vous comprenez? Le savant est sûr, la conscience scientifique est sûre, ça n'arrivera pas, que ça se lève de l'autre côté. Pourquoi? Encore une fois, par ce poids de conviction de l'habitude jusqu'à maintenant. C'est clair? Mais j'espère que vous avez compris ce que je voulais indiquer là. C'est un acte de foi. Au niveau des évidences de la raison, rien n'autorise à dire que demain, le soleil se lèvera de nouveau. Et peut-être qu'un phénomène non observé jusqu'à présent, inconnu jusqu'à présent, viendra bouleverser ce type de choses. Okay? Et alors, on ne peut pas ne pas nier que dans la science moderne d'aujourd'hui, ce principe du déterminisme est dans beaucoup d'universités secrètes, je ne sais pas comment vous appelez ça. Vous avez entendu parler de l'université du groupe de Paddington en Amérique? Ça vous dit rien. Non, il y a des savants qui sont préoccupés par ce problème et qui savent, d'après leurs expériences, que ce principe que les lois sont toujours valables, quelles que soient, etc., déterminées dans l'absolu, est en réalité pas si simple que ça, c'est schématique, qu'il y a des phénomènes qu'on observe et qui n'entrent pas dans l'habitude de la pensée déterministe, mais ils cachent ça, et ce sont des groupes internationaux que certaines universités financent, et ils cachent ça parce qu'ils craignent d'affoler les populations. Vous comprenez, c'est une sorte d'étude secrète. Un des groupes les plus connus, parce qu'il y a beaucoup de savants parmi eux qui font appel à des notions de la Kabbalah, c'est le groupe de Paddington, si vous entendez parler d'eux. Et alors, c'est-à-dire, on sait qu'il y a de l'imprévisible dans le fonctionnement des phénomènes, mais on ne le dit pas, parce que ça risquerait d'affoler la conscience de la modernité qui, elle, est assurée de cette sécurité de la loi qui n'a pas d'exception. Je schématise beaucoup ce que je vous dis là, mais oui, un peu ce qui se passe. Et, or, si la conscience moderne découvrait cela, que le déterminisme n'est pas si absolu que cela, alors elle commencerait un peu l'histoire que je vous ai citée tout à l'heure des 10 plaies en Égypte, qui avait cela pour objet de faire comprendre au pharaon qu'il y a quelqu'un, et pas seulement des phénomènes impersonnels. C'est quand les sorciers du pharaon disent « Esma Elohim, le doigt de Dieu », alors le pharaon commence à s'affoler. Il finit par découvrir de quoi les Hébreux parlent. Il y a quelqu'un qui gère le monde. Et c'est un peu ce problème que nous avons là et que nous avons dans notre temps. C'est-à-dire, pourquoi la morale, finalement, n'a pas de fondement, n'a pas de garantie? Eh bien, parce que la conscience moderne évolue dans un monde qui est censé être abandonné à lui-même. Et par conséquent, l'et din velet dayan. Et alors, faire redécouvrir cela, que malgré les apparences, le monde n'est pas une machine impersonnelle, pourrait ramener la conscience des hommes à une perception de la moralité. Et bien même ça, ça servait. Pendant ces 7 jours-là, le soleil s'est levé de l'autre côté, et les savants de ce temps ont dit, bon, on ne sait pas expliquer, mais c'est quand même de l'impersonnel déterminé, l'Eddin Velet Dayan, et on continue en recommandant. Vous avez compris ça? C'est-à-dire ici, la première expérience, c'était d'ordre moral. Il existe un tzaddik. La tchouva peut venir de la conscience morale directement, de l'affectivité morale aussi. La deuxième est d'ordre intellectuel. Le monde n'est pas comme on croyait qu'il était. C'est pas seulement la nature impersonnelle. Il y a un juge. Ça aussi, ça échoue. Et alors, la troisième explication de cette page de Gemara, des 7 jours, c'est de dire que ces 7 jours-là, il y a eu une abondance de bracha dans le monde. Une abondance de bénédiction dans le monde. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas de l'eau qui tombait dans la pluie, c'était du nectar. C'est les petits pains au chocolat poussés sur les cactus. Donc, ben, l'abondance, un peu comme la Gemara décrit les conditions. Chefa. Un peu, vous savez, vous donner une petite idée. dans les 40 ans du désert, le problème économique est supprimé au peuple d'Israël, n'a plus de problème de Parnassa, il y a la manne, okay. Il y a plus de problème militaire, il y a Ranan et Kavod qui protègent les nuages de la gloire, vous avez appris ça, qui protègent le peuple, et il n'y a même pas de problème de confectionneur, ce que les juifs affectionnent, les confectionneurs.